Brusquement, elle retira sa main, elle sauta de côté, comme un animal indomptable et fier qui se cabre. Puis, elle galopa au travers de la nuit vers la maison. On entendit sur les cailloux de l'air le claquement de ses petites bottines, qui s'assourdit ensuite dans le sable d'une allée. Lui, déjà désolé, la rappela d'une voix pressante. Mais elle n'écoutait pas, ne répondait pas, courait toujours. Saisi de crainte, le cœur serré, il s'élança derrière elle, tourna le coin du bouquet des platanes, juste assez tôt pour la voir rentrer en tempête dans le vestibule. Il s'y engouffra derrière elle, franchit l'escalier, se heurta contre la porte de sa chambre dont elle poussait violemment les verrous. Et là, il se calma, s'arrêta d'un rude effort, résistant à l'envie de crier, de l'appeler encore, d'enfoncer cette porte pour la ravoir, la convaincre, la garder tout à lui. Un moment, il resta immobile devant le silence de la chambre, d'où pas un souffle ne sortait. Sans doute, jetée en travers du lit, elle étouffait dans l'oreiller ses cris et ses sanglots. Il se décida enfin à redescendre, fermer la porte du vestibule, remonta doucement écouter s'il ne l'entendait pas se plaindre, et le jour naissait lorsqu'il se coucha, désespéré, étranglé de larmes. Dès lors, ce fut la guerre sans merci. Pascal se sentit épié, traqué, menacé. Il n'était plus chez lui, il n'avait plus de maison. L'ennemi était là, sans cesse, qui le forçait à tout craindre, à tout enfermer. Coup sur coup, deux fioles de la substance nerveuse qu'il fabriquait furent ramassées en morceaux, et il dut se barricader dans sa chambre. On l'y entendait assourdir le bruit de son pilon sans qu'il se montrât même aux heures des repas. Il n'emmenait plus Clotilde les jours de visite, parce qu'elle décourageait les malades par son attitude d'incrédulité agressive. Seulement, dès qu'il sortait, il n'avait qu'une hâte, celle de rentrer vite, car il tremblait de trouver ses serrures forcées, ses tiroirs saccagés au retour. Il n'utilisait plus la jeune fille à classer et à recopier ses notes, depuis que plusieurs s'en étaient allés, comme emportés par le vent. Il n'osait même plus l'employer à corriger ses épreuves, ayant constaté qu'elle avait coupé tout un passage dans un article dont l'idée blessait sa foi catholique. Et elle restait ainsi, oisive, rôdant par les pièces, ayant le loisir de vivre à l'affût d'une occasion qui lui livrerait la clé de la grande armoire. Ce devait être son rêve, le plan qu'elle roulait pendant ces longs silences, les yeux luisants, les mains fiévreuses. Avoir la clé, ouvrir, tout prendre, tout détruire, dans un auto-da-fé qui serait agréable à Dieu. Les quelques pages d'un manuscrit, oubliées par lui sur un coin de table, le temps d'aller se laver les mains et passer sa redingote, avaient disparu, ne laissant, au fond de la cheminée, qu'une pincée de cendre. Un soir, qu'il s'était attardé près d'un malade, comme il revenait au crépuscule, une terreur folle l'avait pris, dès le faubourg, à la vue d'une grosse fumée noire qui montait en tourbillon, salissant le ciel pâle. N'était-ce pas la souleyade entière qui flambait, allumée par le feu de joie de ses papiers? Il rentra au pas de course. Il ne se rassura qu'en apercevant, dans un champ voisin, un feu de racines qui fumait avec lenteur. Et quelle affreuse souffrance, ce tourment du savant qui se sent menacé de la sorte dans son intelligence, dans ses travaux. Les découvertes qu'il a faites, les manuscrits qu'il compte laisser, c'est son orgueil, ce sont des êtres, du sang à lui, des enfants. Et en les détruisant, en les brûlant, on brûlerait de sa chair. Surtout, dans ce perpétuel guet-apens contre sa pensée, il était torturé par l'idée que cet ennemi qui était chez lui, installé jusqu'au cœur, il ne pouvait l'en chasser et qu'il l'aimait quand même. Il demeurait désarmé, sans défense possible, ne voulant point agir, n'ayant d'autres ressources que de veiller avec vigilance. De toutes parts, l'enveloppement se resserrait. Il croyait sentir les petites mains voleuses qui se glissaient au fond de ses poches. Il n'avait plus de tranquillité, même les portes closes, craignant qu'on ne le dévalisât par les fentes. « Mais, malheureux enfant, cria-t-il un jour, je n'aime que toi au monde, et c'est toi qui me tues. Tu m'aimes aussi pourtant. Tu fais tout cela parce que tu m'aimes. Et c'est abominable. Et il vaudrait mieux en finir tout de suite en nous jetant à l'eau avec une pierre au cou. » Elle ne répondait pas. Ses yeux braves disaient seuls, ardemment, qu'elle voulait bien mourir sur l'heure si c'était avec lui. Alors, je mourrais cette nuit, subitement, que se passerait-il donc demain? Tu viderais l'armoire? Tu viderais les tiroirs? Tu ferais un gros tas de toutes mes œuvres et tu les brûlerais? Oui, n'est-ce pas? Sais-tu que ce serait un véritable meurtre, comme si tu assassinais quelqu'un? Et quelle lâcheté abominable, tuer la pensée! Non, dit-elle d'une voix sourde, tuer le mal, l'empêcher de se répandre et de renaître. Toutes leurs explications les rejetaient à la colère. Il y en eut de terribles. Et, un soir que la vieille Madame Rougon était tombée dans une de ses querelles, elle resta seule avec Pascal, après que Clotilde se fût enfuie au fond de sa chambre. Un silence régna. Malgré l'air de navrement qu'elle avait pris, une joie luisait au fond de ses yeux étincelants. « Mais votre pauvre maison est un enfer » cria-t-elle enfin. Le docteur, d'un geste, évita de répondre. Toujours, il avait senti sa mère derrière la jeune fille, exaspérant en elle les croyances religieuses, utilisant ce ferment de révolte pour jeter le trouble chez lui. Il était sans illusion. Il savait parfaitement que dans la journée, les deux femmes s'étaient vues et qu'il devait à cette rencontre, à tout un empoisonnement savant, l'affreuse scène dont il tremblait encore. Sans doute sa mère était venue constater les dégâts et voir si l'on ne touchait pas bientôt au dénouement. « Ça ne peut continuer ainsi, reprit-elle. Pourquoi ne vous séparez-vous pas, puisque vous ne vous entendez plus? Tu devrais l'envoyer à son frère Maxime, qui m'a écrit ces derniers jours pour la demander encore.